Bienvenue pour ce nouvel échange de perspectives. Imaginez un instant, un président sortant, vraiment au plus bas. Je veux dire, sa popularité stagne sous la barre des 10%. Il fait un infarctus massif, totalement gardé secret. Et bah, il finit quand même par remporter l'élection haut la main. C'est pas de la fiction, en fait. C'est la Russie de 1996.
Le 16 juin 1996, pour être exact. C'est la toute première élection présidentielle au suffrage universel direct de la Russie indépendante. On a Boris Eltsine face au communiste Gennady Zyuganov.
Exactement. Et au premier tour, l'écart est vraiment infime, genre 35,28% contre 32,04%.
Avec un pays qui est, honnêtement, à bout de souffle. Les Russes sont épuisés. Il y a la guerre de Tchétchénie, la fameuse thérapie de choc, ce passage super brutal au capitalisme qui a pulvérisé les économies de millions de gens avec l'hyperinflation.
Oui, une vraie rupture. Donc, la question centrale d'aujourd'hui, est-ce que cette élection a été le sauvetage pragmatique et nécessaire de la démocratie russe face au retour du communisme, ou bien la matrice de sa corruption définitive?
C'est tout l'enjeu, oui.
Personnellement, je défends l'idée que c'était un rempart très imparfait, je suis le premier à l'admettre, mais absolument vital pour sauver un régime naissant d'un péril mortel.
Et pour ma part, eh bien, j'y vois vraiment le péché originel. C'est le moment précis où l'intégrité démocratique a été sacrifiée, tout simplement, aux intérêts des oligarques.
Faut vraiment se remettre dans le contexte de l'urgence absolue de fin 95. Eltsine, il était politiquement condamné.
Ah, complètement.
Et en face, Zyuganov, il ne vendait pas juste de la nostalgie soviétique, il captait une colère très concrète, celle des retraités ruinés, des ouvriers des régions industrielles sinistrées. Donc pour contrer ça, Eltsine a dû opérer un coup de génie stratégique.
Un coup de génie, c'est vite dit.
Ben, s'allier avec le général Alexandre Lebed, qui était arrivé troisième avec 14,5% des voix, c'est fort, hein? En le nommant secrétaire du Conseil de sécurité juste après le premier tour, il s'assure les voix de la contestation et gagne à 54% au second. C'est de la survie politique pure et dure.
De la survie, oui. Mais enfin, parlons de la méthode, Agnew. Vous dites gagner, moi je dis confisquer. Ce qui s'est passé en coulisses, c'est ce fameux programme des prêts contre actions. Concrètement, comment ça a fonctionné? L'industriel de l'État a une poignée de banquiers pour une bouchée de pain. Et en échange, ces oligarques ont financé la campagne d'Eltsine en explosant littéralement tous les plafonds légaux.
Je vous accorde que l'argent a coulé à flot.
Et c'est pas tout, hein. Ils ont mis leurs chaînes de télévision, notamment ORT et NTV, qui dictaient ce que 90% des Russes voyaient au service exclusif du pouvoir.
La couverture médiatique était fortement biaisée, c'est indéniable.
Biaisé. Non, c'était une machine de propagande binaire. Zyuganov n'avait quasiment plus aucun accès à l'antenne. Ils ont réduit l'élection à un choix artificiel. L'avenir avec Eltsine ou le retour direct au goulag. Ils ont créé ce précédent dévastateur, cette conviction intime que l'argent et la télé peuvent fabriquer une victoire de toutes pièces.
Je vois pourquoi vous pensez cela, mais posons-nous la vraie question. Est-ce qu'une élection totalement transparente, qui aurait abouti à la destruction du système démocratique par les communistes, était préférable à une victoire, disons, arrangée?
C'est un dilemme un peu facile, non?
Pas forcément. Ce n'était pas qu'une illusion télévisuelle. Regardez la vitalité du scrutin. Presque 70% de participation, 69,8% très exactement. Et regardez le score tragique de Gorbatchev, 0,5%. Il y a eu un vrai vote de rejet du passé soviétique. Les Russes ont voté en connaissance de cause.
En connaissance de cause. Attendez, c'est là que l'histoire devient fascinante et franchement choquant. Entre les deux tours, avec un rythme de campagne harassant, Boris Eltsine fait une crise cardiaque sévère.
Oui, l'incident médical.
Il est physiquement incapable de gouverner. Or, cette info majeure est totalement dissimulée aux électeurs. On masque son état par de brèves apparitions ultra-contrôlées. Au second tour, le pays a littéralement voté pour un fantôme.
Mais révéler ça à ce moment précis, c'était risquer un vide du pouvoir immédiat.
Peut-être, mais...
Et une panique générale face à un parti communiste si puissant. Ne rien dire, c'était perçu comme la condition sine qua non pour maintenir l'État debout.
Je l'aborde sous un autre angle, si vous permettez. Parce que le coup de ce mensonge d'État, c'est la mort de l'intégrité institutionnelle. Et c'est là que l'histoire est ironique. 1996 a fourni au Kremlin le manuel d'instruction pour manipuler le système.
Vous allez un peu vite en besogne.
Mais c'est factuel. Les mêmes oligarques qui ont construit cette machine médiatique et financière pour sauver Helsinki, ils ont accidentellement bâti la machine exacte que Vladimir Poutine, désigné par un Helsinki affaibli en 1999, utilisera pour les soumettre et les écraser par la suite.
D'accord, je comprends le parallèle. Mais malgré tout, sur le moment, le pari a fonctionné. L'élection de 1996 a fermé la porte de justesse à la restauration soviétique. La Russie n'a pas basculé en arrière à ce moment-là.
Elle a surtout institutionnalisé la fraude. 20 ans plus tard, des proches du pouvoir de l'époque ont même reconnu que les marges des résultats avaient pu être arrangées. La transparence a été la grande sacrifiée.
Je pense qu'il y a tout de même un point sur lequel nous pouvons converger sans réserve. C'est que ce fut la dernière élection présidentielle véritablement disputée en Russie.
Oh, absolument.
Un scrutin où deux candidats se tiennent à 3 points d'écart au premier tour. C'est une époque totalement révolue.
Oui. 30 ans plus tard, ce niveau de compétition électorale, c'est plus qu'une parenthèse refermée à double tour.
Et c'est ce qui rend 1996 si essentiel à comprendre. Le pays a évité de justesse le retour à son passé, mais les outils utilisés pour le sauver, ont fini par redessiner son avenir. La fin justifie-t-elle les moyens en démocratie ? On laisse nos auditeurs y réfléchir. Merci de vous être joints à nous.